RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
Avec Alexis, on n'a pas vu le temps passer. Il est déjà 18h10, dites-moi, voici le 18-19 local. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Fabrice, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le magazine des vacances de Noël. Ce mercredi soir, 3 janvier sur RCF, Reims-Ardennes, RCF, Champagne-Ardennes en DAB+. Magazine un peu spécial qui s'organise entre actualité et meilleurs moments vécus sur l'antenne l'an passé. En attendant la rentrée, la vraie, lundi 8 janvier. Ce soir, on prendra l'ascenseur social. C'est le mot dont veut nous parler notre chroniqueur Robert Reverger. Un ascenseur qui peut parfois mener au succès, comme c'est le cas pour l'éco-festival de musique dans les Ardennes. Le Cabaret Vert, l'édition 2024, se prépare dès maintenant. Elle est même déjà ficelée. Le directeur général Julien Sauvage sera notre invité. Parler spiritualité autrement, c'est ce que l'on vous proposera ce soir avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes et président de la Conférence des évêques de France, où l'on verra comment sport et chrétienté sont liés. Après quoi, Jeanne Boudre nous parlera, elle, de patinage artistique, entre autres discipline avec son invité Priscilla. Le mercredi, c'est aussi l'occasion de parler cinéma, alors le réalisateur David Fincher sera à l'honneur dans L'œil de Lise. Puis même si on est en vacances, on a une pensée pour tous les étudiants qui préparent leur partiel. Pour certains, c'était avant les fêtes, pour d'autres, c'est à la rentrée. Quelques-uns de l'ICP nous rejoindront en plateau pour évoquer ce sujet un peu fâcheux parfois, il faut bien l'admettre, mais sans plus tarder, comme promis, c'est bien avec Robert Reverger que l'on commence. Il est interrogé par Jean-Pierre Benoît.
Notre thème d'aujourd'hui, c'est une métaphore en deux mots, et vous nous direz s'il fonctionne bien, cet ascenseur social, ou s'il est en panne. Mais tout d'abord, un peu d'histoire, à quand remonte la construction des ascenseurs d'habitation?
À la fin du 19e siècle, plusieurs inventeurs, dont le plus célèbre est un certain Otis, eurent l'idée de nommer leur invention ascenseur, ce qui s'appelait auparavant un monte-charge.
Ne regardez pas quand vous dites ça, monte-charge, parce que moi je pense souvent à l'ascenseur. Alors, ce qui n'aurait pas été très flatteur vis-à-vis de la prise en charge d'humains, alors quelle est donc la racine du mot ascenseur? Ça vient d'où?
Ce mot vient du latin ascensum, c'est une forme du verbe ascendere qui signifie monter, et cette racine on la retrouve dans ascendant, dans ascendance, ou encore d'ailleurs ascension, mot qui, avec une majuscule, désigne l'élévation de Jésus-Christ dans le ciel. Alors, ascenseur a meilleure allure qu'élévateur, bien sûr, aujourd'hui réservé aux chariots de manutention ou que monteur ou remonteur.
Alors, qu'entend-on par ascenseur social cette fois? Est-ce que cette métaphore sous-entendrait que, contrairement aux ascenseurs des habitations, ils ne fonctionnent que dans le sens de la montée dans la hiérarchie sociale?
On peut le dire comme ça, oui. Contrairement aux ascenseurs de nos cités, l'ascenseur social est censé ne permettre que de s'élever, de progresser socialement, mais comme tout ascenseur, on peut imaginer qu'il peut descendre jusqu'à, parfois, transporter ses occupants dans les sous-sols de la société.
Alors, comment qualifie-t-on cette descente cette fois, Robert? Vous êtes très provocant aujourd'hui.
En toute logique, on pourrait alors parler de descenseur, voire de descendeur social. Mais comme il s'agit de descente dans les classes sociales, on préfère parler de déclassement social.
Connaît-on une époque où cet ascenseur a bien fonctionné?
Oui, on peut dire que le fonctionnement de cet ascenseur fut lié à l'évolution de la France au début du XXe siècle. 10% environ des enfants, des filles surtout d'ailleurs, de paysans et d'ouvriers, grâce à l'école de Jules Ferry, accédaient alors à de nouvelles fonctions, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Alors pour citer un chiffre, 2% seulement des enfants d'ouvriers atteignent le niveau Bac+2, contre 68% d'enfants de cadre supérieur.
Est-on certain du bon ou du mauvais état de l'ascenseur social?
Les avis divergent selon les organismes officiels qui sont chargés de vérifier son état. L'INSEE, par exemple, nous dit, dans un rapport qui a été publié en juin 2022, qu'il n'est pas en panne, alors que France Stratégie, qui est un organisme rattaché à Matignon, prétend le contraire dans un rapport très récent.
Alors, quels sont les arguments de l'INSEE, Robert Reverger?
En résumé, parmi les enfants des 20% des ménages les plus modestes, 12% d'entre eux rejoindront à 28 ans les 20% les plus riches, et globalement, 70% de ces jeunes gens issus de milieux modestes gagnent mieux leur vie que leurs parents.
Alors, quelle analyse fait France Stratégie qui prétend cette fois l'opposé, que l'ascenseur social est vraiment en panne?
Oui, ben cet organisme observe quant à lui, et d'ailleurs je le cite, une quasi-stabilité de la mobilité sociale depuis 20 ans, malgré la cinquantaine de dispositifs existants, globalement modestes et qui donnent des résultats décevants. Autre constat fait par cet organisme, les inégalités se cumulent tout au long de la scolarité des élèves dès la petite enfance.
Et là, la petite enfance, on y reviendra, hein, les premières années d'enseignement, et d'ailleurs on pourrait évoquer tout cela avec Jacques Yves, qui a eu un passé dans l'enseignement aussi, c'est vrai que dans l'enseignement primaire, ça compte beaucoup. Alors si l'on admet que l'ascenseur social est en panne, en connaît-on les causes ?
Ben, permettez-moi auparavant une remarque, cela ne vous a pas échappé. On ne parle plus beaucoup d'ascenseur social, mais de mobilité sociale, ce qui atténue, voire même supprime, la notion de montée ou de descente.
Moi, j'aime bien cette métaphore d'ascenseur social, mais connaît-on les causes de la panne éventuelle ?
Oui, on peut en dénombrer plusieurs.
Alors, quelles sont les principales causes ?
Eh bien, cette panne d'ascenseur a probablement deux causes majeures intimement liées. D'abord, une panne d'éducation, principalement à la charge des parents, et une panne d'instruction qui est principalement à la charge des enseignants du public et donc de l'État.
Alors deux questions se posent avec vous aujourd'hui, Robert Verger. Qu'est-ce qu'au juste l'éducation et qu'est-ce qu'au juste l'instruction ?
Eh bien, notons d'abord qu'il y a une énorme différence entre les deux termes. Le mot éducation, qui est issu du latin educatio, signifie conduire, guider, en particulier dans le domaine des valeurs. Instruire, c'est transmettre des connaissances. Alors en résumé, si on peut dire, l'éducation fournit des repères, l'instruction des savoirs, ou encore, comme le disait un texte de l'époque de la Révolution, l'instruction publique éclaire et exerce l'esprit, l'éducation doit former le cœur.
Pour terminer, Robert, avant de vous retrouver mercredi prochain, quelles sont les conséquences potentielles de cette panne d'ascenseur social ?
Ben, elles sont évidemment très lourdes. Au plan économique, c'est par exemple la perte de l'emploi, donc le chômage et donc la perte de salaire. Au plan social, c'est une insuffisance du milieu familial, c'est un échec de l'intégration qui entraîne un syndrome d'abandon ou un sentiment d'être l'objet de mépris, sentiment qui finit souvent par engendrer des colères, voire des révoltes.
Merci Robert Verger qui est avec
vous
tout le mercredi.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Ces organisateurs ont pris l'ascenseur social vers le succès. On parle bien évidemment de l'équipe du Cabaret Vert. L'éco-festival de musique revient du 15 au 18 août prochain à Charleville-Mézières. En ce début d'année, Julien Sauvage, le directeur général du festival, nous fait l'amitié de nous en parler. Bonjour Julien.
Bonjour.
Ça y est, Julien Sauvage, 2024 est lancé. Bon, ça fait déjà quelques mois que vous y travaillez, mais on va dire que c'est lancé auprès du grand public cette fois.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, on bosse à peu près sur trois éditions en même temps. On est encore en train de clôturer l'édition de 2023. On est effectivement dans les starting blocks pour l'édition de 2024. Et on est déjà en train de travailler d'une certaine manière sur l'édition 2025. Mais là, voilà, ouais, ça y est, la première grosse étape pour le public après l'annonce des dates, hein, c'était l'annonce des premiers noms. Alors, on avait déjà annoncé quelques noms il y a quelques semaines autour de l'avenue de Pic Gervais qu'on voulait vraiment faire ressortir. Mais là, on a sorti une petite trentaine de noms pour donner un peu la couleur de cette édition.
Justement, Julien Sauvage, si l'on balaye quelques-uns de ces noms, lesquels vous avez envie de ressortir pour cette édition 2024 ?
Ouais, ben forcément, je pense plutôt les têtes d'affiche, hein, mais on a construit la journée, en tout cas les journées sous forme un peu thématique, une journée volontairement assez rock, avec notamment la présence, c'est très égoïste de ma part ou très personnel, c'est un artiste que je voulais accueillir depuis longtemps, les Queen of the Stone Age, qui avaient confirmé leur venue, ça le public n'a pas pu le savoir pour l'édition 2021 qui malheureusement a été annulée, avec notamment co-billing Pete Gervais ou encore Macklemore. Une journée le vendredi avec SCH, chez surtout Nino, hein, qu'on ne présente plus au grand public. Un samedi qu'on a voulu plutôt assez festif, je pense notamment à la présence des Justice ou des grosses lignes de basse de Double, pour ne citer qu'eux, avec la formation de Funky Family. Et puis un dimanche qui a un petit peu changé. On pense que le festival existe depuis 20 ans, le public a forcément évolué. On a toujours dit qu'on voulait une journée avec un peu des enfants, des poussettes, etc. Et ben aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt nous, maintenant, notre âge, les quarantenaires, cinquantenaires, qui avons des enfants, qui avons des poussettes à la maison. Et donc, on s'est plutôt orienté sur une journée plutôt années 90, alors avec l'avenue de Corne qui sera date unique en France. Et puis, on a cherché quand même à avoir un petit côté toujours un peu populaire, avec Louis Tomlinson, l'un des deux leaders de One Direction, ou encore Chaka Khan, qu'on ne pouvait pas éviter avec la grande histoire que le groupe peut avoir avec le Cabaret Vert, ou que le Cabaret Vert avec le groupe. C'est selon comment on veut présenter les choses, mais je crois que c'est la 7e fois que notre association va programmer Chaka Khan, que ce soit au Cabaret Vert ou sur d'autres événements.
Julien Sauvage, même si vous le disiez, la programmation suit quelque part votre évolution personnelle, à vous et toute l'équipe qui organise ce festival Cabaret Vert depuis de nombreuses années maintenant. On a quand même l'impression que cette édition 2024, ça sera du 15 au 18 août d'ailleurs, pour donner les dates, on a un retour aux sources vraiment porté rock'n'roll.
Effectivement, c'est pas forcément nous qui décidons de la mode et des artistes qui tournent, mais on voit qu'effectivement le rock'n'roll est un peu sur le retour. C'est aussi pour ça qu'on a envie de reprogrammer les Fontaines d'ici le jeudi, qui ne font que grandir. Maintenant, il faut aussi mesurer un petit peu les choses, puisque nous n'avons pas encore du tout annoncé tout le line-up de la scène du Green Floor, qui est par nature très hip-hop et électro. Je pense que jusqu'à présent, on avait tendance peut-être à annoncer un peu plus globalement des artistes d'un peu de toutes les scènes. Là, on a fait le choix de prioriser la grande scène et la scène 2 du festival dans notre annonce avec quelques groupes du Razorback qui étaient déjà confirmés. Le Green Floor, on a pris tout simplement l'audace d'attendre un peu parce qu'on a besoin et on pense qu'il faut que le festival vive avec son temps, soit un festival vraiment du 21e siècle et à la pointe. Et on sait que, notamment dans le hip-hop francophone, ça va toujours très très vite et on veut se laisser encore un petit peu de temps pour déceler les futures pépites de demain, et je pense qu'on annoncera quelque chose plutôt dans le courant du premier trimestre 2024.
Puisque vous parlez de futurs artistes à annoncer, Julien Sauvage, je me dois de vous poser la question. C'est vrai que mi-décembre, il y a certains de nos confrères qui ont révélé d'autres noms d'artistes que vous n'avez pas révélés lors de la programmation. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'on aura la chance de voir ces artistes-là au Cabaret Vert 2024?
Ah ben alors donc peut-être que des médias savent mieux que nous la programmation du Cabaret Vert ou lisent dans le marc de café, mais à l'heure actuelle, si nous n'avons pas annoncé les deux artistes qui étaient recouverts par des croix sur notre première annonce, c'est tout simplement que ces deux artistes ne sont absolument pas confirmés, donc il n'y a absolument rien à annoncer.
Donc c'est vrai qu'il y a la programmation musicale, mais aussi pour rappeler ce qu'est le Cabaret Vert à nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, qui ne seront encore jamais allés du côté de Charleville-Mézières au Square Bayard pendant le mois d'août, ce n'est pas que la musique, le Cabaret Vert, c'est bien plus que ça. On pense au festival de BD, évidemment, et puis à plein d'autres choses.
Oui, bah c'est ça. En fait, on cherche toujours dans le côté festival, il y a le côté festif. On cherche avant tout à créer un grand week-end de fête, un grand week-end populaire. Il y a un mot qui revient beaucoup à la mode en ce moment, qui est la notion d'expérience. Moi, je parlerais presque plus de qualité d'accueil. On a fondé ce festival pour améliorer l'image des Ardennes, pour faire venir des gens dans les Ardennes et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce que peut être notre territoire et de sa richesse patrimoniale, que ce soit bâtimentaire, naturelle et ainsi de suite. Et dans cet état d'esprit, on a voulu que le festival, il y en ait un petit peu pour tous les goûts, que les gens puissent passer des journées agréables. Et donc, en dehors des concerts, on a effectivement aujourd'hui un des plus gros festivals de bande dessinée au sein même du festival. On y déploie également deux salles de cinéma, de l'art de rue, des conférences. Enfin voilà, l'idée encore, c'est que les gens puissent s'oxygéner à droite et à gauche, puissent papillonner entre différentes choses, puissent faire des découvertes, puissent respirer, puissent avoir une journée pleine au travers de tout un tas de propositions artistiques qui peuvent leur être faites.
Le rendez-vous pour le Cabaret Vert 2024, c'est du 15 au 18 août. Julien Sauvage, ça y est, la billetterie est lancée aussi?
Oui, la billetterie est lancée et pour le moment, on est en train de partir sur de très très bonnes bases. On est meilleur que les années précédentes. On verra d'ici quelques mois si l'ascendance se poursuit. En tout cas, on est très très satisfait de ce lancement qui s'explique probablement aussi effectivement par la qualité de la programmation, hein, puisqu'on a quand même mis les petits plats dans les grands cette année. J'ai tendance à dire chaque année que notre programmation était meilleure que les années précédentes, mais c'est bien entendu encore le cas cette année.
J'imagine d'autant plus satisfait de voir justement le public suivre ce que vous proposez, que les tarifs ont augmenté cette année. C'est vrai que ça faisait déjà plusieurs éditions que vous expliquiez que c'était difficile pour vous de rester sur les mêmes tarifs que les éditions précédentes avec la hausse des coûts que l'on connaît, qui sont répercutés sur l'énergie, etc. Là, cette année, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû légèrement augmenter vos tarifs, Julien Sauvage.
Ouais, c'est ça, malheureusement, c'est pas de gaieté de cœur qu'on augmente les tarifs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est loin d'être riche, hein. Je rappelle que le Cabaret Vert est géré par une association à but non lucratif, c'est donc une gestion totalement désintéressée. L'argent éventuellement gagné ne va pas dans nos poches. À l'heure actuelle, nos réserves ne représentent même pas 1% du budget du festival en 20 ans, donc c'est bien dire que ce qu'on gagne, on le réinjecte dans le festival. Mais vous l'avez dit, le contexte actuel que nous subissons tous dans nos vies privées réjaillit lui aussi sur le festival. Donc on n'a pas d'autre choix si on veut pérenniser le festival que d'essayer de retrouver un petit peu d'oxygène. Alors les partenaires publics et privés sont à nos côtés, mais malheureusement ça ne suffit pas. Et on est obligé d'impacter cela également sur la billetterie. Mais si on garde un petit peu, je m'étais amusé à le faire pour quelques artistes. Je crois que PJ Harvey, la dernière fois qu'elle est venue en France, alors que c'est une artiste assez rare à l'Olympia, son concert était à 150 €. J'ai regardé également ce que pouvaient valoir des places pour Chaka Ponk. Si j'ai bien cherché, je crois qu'il n'y a aucune place en dessous de 52 € en France pour pouvoir voir Chaka Ponk cette année. Donc on reste sur des tarifs qui, à mon sens, restent extrêmement modérés par rapport à ce que l'on propose. Un festival qui est fortement engagé sur son territoire, qui propose une programmation artistique de haute volée et puis qui a des valeurs. On ne vend pas tout et n'importe quoi sur le festival. On s'appuie sur des produits de qualité, des produits locaux qui nous poussent à refuser certains sponsoring industriels de grands groupes qui n'auront pas d'impact économique pour notre territoire. Donc peut-être que c'est le prix, le juste prix d'un festival indépendant, associatif et qui défend des valeurs qui n'est quand même pas neutre dans la société dans laquelle on est aujourd'hui.
Ça a toujours été, Julien Sauvage, depuis la fondation de ce festival, j'allais dire le leitmotiv du Cabaret Vert. Donc on invite nos auditeurs à vous soutenir et à vous rejoindre, pourquoi pas, du 15 au 18 août 2024. Merci Julien Sauvage d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bon courage avec toutes vos équipes pour la préparation de cette édition 2024. Et puis évidemment, d'ici le mois d'août, on aura l'occasion, comme on le fait régulièrement sur les ondes de RCF, de vous retrouver avec toutes les actualités qui vont suivre au fur et à mesure, notamment premier trimestre 2024, la suite des noms qui arrivent pour cette édition. À très bientôt, Julien Sauvage.
Merci à vous.
Le 18-19 sur RCF.
L'actualité sur RCF, c'est aussi les étudiants qui profitent de leurs derniers jours de vacances, mais peut-être en travaillant, car si certains ont eu leur partiel avant les vacances, d'autres, c'est à la rentrée qu'ils plancheront sur leurs copies, examens et révisions, c'est le sujet de ce numéro de Bulles étudiantes. Petit tour de table, on commence avec Oriane. Bonjour Oriane.
Bonjour.
En première année Infocom, c'est la pleine période de révision actuellement. On continue le tour de table avec Bastien.
Bonjour.
Bonjour Bastien, il n'est absolument pas étudiant à la Cato, il est encore au lycée, il prépare le baccalauréat au lycée Saint-Michel. C'est bien ça ?
Pas
d'erreur ? Allez, on continue le tour avec Suzanne qui est là également. Salut Suzanne.
Salut.
Licence L3 Infocom. Kylian qui est notre stagiaire à la rédaction est passé nous faire un petit coucou pour cette émission début janvier en BTS. Deuxième année, les examens c'est en fin d'année mais on s'y prépare dès maintenant.
Bah oui, il faut bien s'y préparer. Hein.
On a tendance à y croire, on verra si c'est vrai tout à l'heure. Avec nous, Carla est là en deuxième année Infocom. Salut Carla.
Salut.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la première émission de l'année. Et alors, un petit message peut-être pour commencer cette émission pour nos auditeurs.
Bonne année!
Voilà, bonne année collective. Cette fois, on redevient sérieux et on rentre dans le vif. Le sujet du jour, les examens. Certains d'entre vous les ont déjà terminés, d'autres sont en plein dans les révisions. Quels sont ceux qui sont tranquilles?
Bah, on est tous tranquilles, là. Enfin, moi, personnellement, du coup, je viens de terminer mes examens hier.
Donc là, Suzanne, ça y est, c'est en détente?
Ouais, c'est ça y est, enfin, on peut un peu souffler.
On va avoir l'occasion de voir comment ça se passe. Pour toi, Kylian, par exemple, t'es pas encore tranquille parce que c'est que des examens de fin d'année.
Oui, c'est ça, ça sera au mois de mai. Donc les révisions vont commencer intensivement maintenant.
Ça veut dire que là, on n'a pas encore révisé le programme du début d'année. Pour l'instant, on a laissé un petit peu traîner.
On a un petit peu révisé, mais bon, il y a eu la période de stage, donc on révise un peu moins quand on est en stage.
Bastien, pour le baccalauréat, est-ce qu'on s'y prépare dès maintenant? Est-ce qu'on travaille tout au long de l'année ou est-ce qu'on est plutôt dans l'attente?
Moi, je suis plutôt travailler tout au long de l'année, voir les bacs blancs, etc., comment ça se passe, puis voir certaines matières, réviser plus, etc.
Alors, les lignées de la frangine, on reconnaît bien le sérieux de la famille. Carla, les examens, là, c'est terminé?
Oui, enfin. Bah, il y en a qui passent leur partiel avant les vacances, donc eux, ils sont tranquilles pendant les vacances, alors que nous, bah, en plus des fêtes, on a dû réviser, donc content que ce soit enfin terminé.
Oriane, c'était pareil, les partiels, c'était là il y a quelques jours,
non,
quelques heures
vraiment,
encore.
Vraiment, je plonge encore vers l'inconnu, c'est vraiment les derniers jours là, de cette semaine.
D'accord, donc là, on est encore en plein dans l'expectative, on espère que tout va bien se passer. D'ailleurs, pour ceux qui ont terminé leurs examens, comment ça s'est passé?
Ça s'est vraiment bien passé, honnêtement, j'étais un petit peu stressée, mais moi, ça fait la troisième fois que je passe mes partiels à l'ICP.
J'allais dire, Suzanne, vous êtes une habituée en fait.
Mais oui, voilà, je m'y suis malheureusement habituée. Au début, c'est vrai, quand j'étais en première année, j'étais super stressée de ce qui allait m'arriver. Et au final, le temps m'a fait un petit peu décomplexer sur le stress des partiels.
Oui, moi aussi, je suis plutôt du même avis. Comme c'est aussi la deuxième année que je passe des partiels. Enfin, il y a plusieurs matières, on a déjà eu les mêmes profs la première année. Donc on sait un peu leurs attentes et ce qu'ils veulent qu'on fasse au partiel généralement. Et en plus, notre licence, elle demande surtout de la réflexion. Donc même si on connaît nos cours, on sait très bien que c'est pas vraiment sur ça qu'on peut se baser. C'est aussi surtout sur Enfin, voir si on est intelligent, quoi.
Oriane, toi qui es en plein dedans en ce moment, c'est team gros stress, ça met la pression, ou on y est quand même en détente parce qu'on sait finalement que le travail a été fourni régulièrement et qu'on se sent prête à affronter cette période?
Et bah, pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui me stresse pour les examens. Vraiment, j'y vais toujours en détente. Moi, ça me fait plaisir.
Est-ce qu'il y en a ici qui sont stressés par cette période d'examen lorsqu'ils les passent? Ouais, Suzanne, elle a l'air d'acquiescer.
Ouais, moi, je suis stressée pour tout. Alors, en période d'examen, c'est vraiment le pic. Mais j'ai des petits. Enfin, je sais pas, j'ai des petits tips. J'ai des petits tips. Alors déjà, je dirais que il faut bien dormir la veille. Essayez, même si on n'a pas envie de dormir, d'aller se coucher sans les écrans, parce que sinon ça a tendance un petit peu à stimuler trop le cerveau. Aussi, je pense, un petit tips pour mieux réviser, c'est de connaître sa mémoire, savoir comment est-ce qu'on veut réviser, si on a plutôt une mémoire visuelle, auditive, s'il faut qu'on marche pour apprendre un texte. Je pense que c'est super important. Et aussi, bah, avoir confiance en soi, quoi. Et tout se passera bien. De toute façon, on peut plus rien y faire et les dés sont lancés.
Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui sont team stress?
Non, moi ça va, je stresse pas trop parce qu'en fait, je pense surtout à quand ce sera fini.
Alors, on imagine la période d'après-examen, les fêtes, etc. Voilà. Comment ça peut se passer en bonne ambiance. Bastien, toi de ton côté, le baccalauréat, c'est vraiment la première grosse épreuve finalement où on vient rendre des copies comme ça sur des épreuves terminales. Comment tu te sens à quelques mois d'aborder ces épreuves?
Moi, ça va. Je suis quand même assez un peu stressé, mais je pense que bon, je suis un peu mitigé sur les résultats, mais je pense que ça va aller quand même.
Est-ce que c'est quelque chose, Oriane, que t'abordes différemment que le baccalauréat, ces épreuves là que tu passes en licence? Est-ce que c'est des choses que tu as préparées de la même manière, ou est-ce que tu vois les choses totalement différemment?
Alors, pas du tout. Déjà, dans ma manière de réviser, j'ai découvert au bac que j'avais fait un peu n'importe quoi, parce que je réécrivais tous mes cours, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une mémoire visuelle, donc ça ne servait à rien. Donc maintenant, j'ai tout préparé en carte mentale là, pour ces épreuves. Et en plus, bah, je pense qu'au bac, on en a tellement fait une montagne, parce que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas passé le brevet avec le Covid. Donc le bac, c'était notre première épreuve, et il y a tellement eu de stress et de pression avec Parcoursup, que maintenant, les partiels, ça nous fait pas peur du tout, parce que bon, pire, on compensera, et c'est qu'une matière.
Est-ce que quelque part l'inconnu de ces épreuves, c'est quelque chose que vous redoutez, Oriane?
Non, vraiment non. Après avoir passé le bac comme ça et Parcoursup, ça me fait plus peur du tout.
Tout à l'heure, Bastien nous disait qu'il était lui plutôt en détente aussi par rapport à cette découverte. Et Kylian, les épreuves terminales de BTS, est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes?
Ah, les épreuves de BTS. On a la chance quand même d'avoir fait plusieurs examens blancs tout au long de ces deux années. Ça nous permet de nous préparer à ces examens. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce petit stress qui arrive en disant que c'est les examens finaux et que si on les foire, bah, on n'a pas notre BTS.
Bon, on espère que vous n'allez pas les foirer justement et que tout va bien se passer. Suzanne, Carla, vous avez déjà eu quelques expériences à l'ICP avec les examens, les partiels comme ça qui viennent valider chacun des semestres. Est-ce que au fil du temps, c'est quelque chose que vous avez préparé différemment que les épreuves du baccalauréat? Si vous en souvenez, c'est pas encore si loin que ça pour vous.
Bah moi personnellement, je connais bien ma méthode de travail, donc je sais comment je dois travailler pour réviser et je suis plutôt quelqu'un d'organisé, donc ça se passe relativement bien et je pense que j'ai la bonne méthode, donc dès le début, je perds pas trop de temps à savoir comment je vais réviser. Et après, je me rassure aussi en me disant que comme je travaille plutôt bien toute l'année, que j'écoute en cours et que je prends bien mes notes de cours, bah tout au long de l'année, j'ai quand même des bonnes notes en contrôle continu et en soi 4 partiels sur toutes les matières qu'on a le long du semestre. Même si vraiment je me foire sur une épreuve, je pense que je vais quand même rattraper avec les autres matières dans tous les cas.
C'est vrai qu'avoir que 4 matières en examen terminal, ça permet aussi de s'obliger quelque part à avoir un travail régulier tout au long de l'année pour les autres épreuves, pour les autres matières qui sont évaluées différemment. Oriane ?
Je suis totalement d'accord, et surtout avec le fait que on a moins de stress avec tout ça, parce que on a tellement de TD et tellement de notes que finalement, les cours magistraux, ça représente plus rien.
Moi, je voulais rebondir sur ce que Carla a dit.
Rebondis, Suzanne.
Je rebondis, je suis là. Je pense que, comme elle a dit, le plus important, c'est vraiment d'écouter en classe. Je pense que les révisions, elles commencent en fait dès les cours. Vraiment, moi, j'ai une mémoire très auditive, donc souvent, je ne prends pas trop de notes, mais j'écoute vraiment attentivement le prof, et déjà, en fait, je commence à mes révisions des mois avant les partiels, en fait. Comme ça, bah, quand je vais relire mes cours, et bah, je vais déjà savoir de quoi ça parle, et c'est vraiment un conseil que je donne aux auditeurs, c'est d'être attentif en cours.
D'ailleurs, puisque tu parles de la mémoire auditive, Suzanne, je fonctionnais un petit peu comme toi. Moi, ce que je faisais lorsque j'étais étudiant, c'est que j'enregistrais mes cours oralement et je me les mettais en mode dans les oreilles pour m'endormir, un petit peu comme si j'écoutais des musiques pour les retenir. Comme ça, voilà, les gens dans la rue, ils pensaient que j'écoutais des musiques. En fait, je m'enjaillais sur mes cours. Kylian.
C'est vrai que je rejoins Suzanne là-dessus. La participation en cours et la régularité dans les travaux qu'on a à faire à la maison, ça aide vraiment à réviser les partiels parce qu'on sait sur quoi on peut être interrogé et on a déjà eu ces petits exercices qu'on a fait tout au long de l'année qui nous aident à la révision.
Est-ce que ça se passe pareil pour le baccalauréat, Bastien ?
Moi, pour le bac, ça me permet aussi d'enlever un peu de stress, d'avoir des bonnes notes tout au long de l'année et d'écouter en classe.
D'ailleurs, fais-nous un petit rappel. Le contrôle continu, c'est pour combien de pourcentage de la note maintenant ?
C'est 50%, je crois, pour le bac.
Donc, c'est vrai que c'est plutôt rassurant si on sait qu'on travaille bien tout au long de l'année de passer les épreuves en se disant on arrive déjà avec une moyenne solide. Si t'as bien bossé, normalement, t'arrives plutôt, j'allais dire, confiant.
Oui.
Bon, ça, c'est le principal. Les examens, voilà, on y passe tous, finalement. Maintenant, est-ce que on se projette déjà sur le deuxième semestre en se disant, eh bien, voilà, on va continuer ce travail régulier, ou est-ce que, lorsqu'on a passé les examens du premier semestre, que l'on connaît ses moyennes, on se dit, bah, finalement, c'est plutôt tranquille, je peux me permettre de compenser les deux moyennes, donc je vais être un peu plus à la cool au deuxième semestre, ou est-ce que l'on continue de travailler régulièrement, Oriane?
Bah, moi, j'ai des matières au deuxième semestre qui commencent à me faire peur. Par exemple, anglais traduction, je me dis, ça va être cool un peu de compenser. Par exemple, moi, je pense qu'il va falloir que je m'améliore plus dans les travaux de groupe afin d'éviter comme ça de tout faire à la dernière minute. Donc c'est vraiment mon objectif du deuxième semestre.
Voilà, ça c'est un objectif, le travail régulier. Bastien, c'est ton objectif pour plancher jusqu'au mois de juin sur le baccalauréat?
Oui, moi je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir réussir le bac et puis de réussir toute son année.
Suzanne, on va continuer à bosser tout au long du deuxième semestre?
Bah oui, souvent j'ai tendance
qui correspond
à
d'ailleurs
être...
à votre semestre 6 pour vous en L3.
Ouais, le dernier semestre de toute ma licence. Moi j'ai souvent du mal à être assidue au deuxième semestre. À chaque fois je relâche un peu tout et souvent les notes sont bien moins bonnes, donc mon objectif cette année c'est de maintenir le cap afin d'avoir un bon master, parce que les masters ça me concerne et Dieu sait que c'est pas facile.
Aïe aïe aïe, on va vous tirer les oreilles, faites attention. Kylian, vous pas le choix, il va falloir travailler jusqu'au bout du bout pour être efficace au mois de mai.
Ah bah oui, si on travaille pas maintenant on n'aura pas le BTS, donc travail, ça sera les trois mots d'ordre pour cette fin d'année.
Carla, travail ou travail, on s'amuse un peu quand même et on fait la fête un petit peu aussi?
Bah c'est bien d'allier les deux je pense quand même. Non, faut savoir aussi un peu déconnecter parfois, parce que si on est trop dans les révisions, trop dans le travail, enfin moi je sais que je peux pas être trop tout le temps dedans, il faut aussi que je passe du temps avec ma famille, avec mes amis, que je profite aussi de ma jeunesse tout simplement, et je pense que c'est en faisant ça que j'arrive mieux à mes épreuves aussi, parce que j'arrive un peu à me déconnecter et à me reconnecter quand il y en a besoin. Et moi plus les semestres je les vois plus comme en fait chaque semestre un peu comme chaque année. Et moi je valide chaque semestre comme si en fait c'était une année, donc bah pour moi j'arrive en janvier pour une nouvelle rentrée finalement.
Très bien, on a compris le sens de votre propos et de vos propos ici à tous les cinq. Quoi qu'il en soit, on croise les doigts pour que vous ayez des bons résultats pour le premier semestre et puis pour tout au long de l'année. On espère vraiment de bonnes nouvelles pour commencer 2024. Merci Oriane d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci Bastien.
Merci.
Merci Suzanne.
Merci.
Merci Kylian.
Merci.
Et merci Carla d'avoir été à mes côtés tous les cinq. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux échanges autour de l'actualité. D'ailleurs, ce sera avec un autre Alexis que vous connaissez bien, puisqu'il est membre aussi du Sportiplex et de Bulles étudiantes. Alexis Blanchard, qui se fera un plaisir de vous accueillir dans Bulles étudiantes.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Vous êtes toujours dans le magazine des vacances de Noël sur RCF Reims-Ardennes, qui va se transformer en Sportiplex Le Mag pour les 10 prochaines minutes, puisque l'on parle sport et chrétienté désormais. Et aujourd'hui, c'est une première. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, est notre invité. Depuis que la radio RCF a été créée Reims-Ardennes en 1991 et Sportiplex, cette émission, a été fondée en 1998, on avait déjà reçu des prêtres. On ne peut pas s'empêcher évidemment d'avoir une pensée pour le père Bernard Gouraud, dont la photo trône fièrement à l'accueil de la radio. Mais c'est la première fois que nous recevons l'archevêque de Reims dans ce programme. Une telle surprise, monseigneur, que lorsque j'ai noté le rendez-vous dans l'agenda, les techniciens sont venus me voir, notamment Fabrice, on m'a dit « Alexis, tu perds la tête, t'as noté un rendez-vous Sportiplex Le Mag avec l'archevêque, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ». Mais non, ce n'était pas une erreur, monseigneur, vous êtes bien avec nous aujourd'hui. Bonjour monseigneur.
Bonjour Alexis, je suis très honoré de participer à cette émission Sportiplex dont j'entends parler depuis que je suis arrivé.
Eh bien écoutez, aujourd'hui vous y participez, on va vous mettre un petit peu sur les grilles monseigneur au fil des prochaines minutes et peut-être même pendant deux émissions. On se posera la question de la place du sport dans la chrétienté, dans le catholicisme, comment sont liés ces deux aspects de la vie, de la société, quel héritage historique en conserve-t-on aujourd'hui, mais aussi quel impact la religion a sur les sportifs et si vous monseigneur avez déjà été lié ou confronté peut-être à des sportifs s'en remettant à Dieu. Avant cela, on a quelques discrétion sur vous, monseigneur, à vous demander pour connaître votre rapport au sport. Est-ce que vous suivez l'actualité sportive?
Alors, un petit peu, mais je dois le confesser d'assez loin, mais depuis que je suis arrivé à Reims, j'essaie de suivre un peu ce qui se passe dans la région.
Et même si vous le suivez de loin, ça vous arrive au moins une fois ou deux, peut-être dans l'année, d'aller dans les stades, dans les parquets, si vous êtes invité avec les officiels, etc.
Alors j'étais invité une fois, effectivement, pour aller au stade de Reims, et j'avais bien aimé suivre ce match, même si ce match m'a mis mal à l'aise, je dois dire, parce que le stade de Reims avait enchaîné au moins une série d'au moins 7 victoires, et ce jour-là, il a été vaincu par Saint-Etienne, et donc j'ai trouvé que ma présence n'apportait pas grand-chose au stade de Reims, ça m'a un petit peu coupé les ailes.
On ne peut pas croire, monseigneur, que si Reims avait perdu ce jour-là, c'était de la faute de votre présence. Et est-ce que vous pratiquez une ou plusieurs activités physiques, sportives?
Alors, ce que j'ai gardé, je dois dire ici, depuis que je suis à Reims, c'est de courir un peu une fois par semaine, discrètement. Pas un très grand sportif, hein. Mais quand j'étais à Paris, à la fin de mes années parisiennes, là, j'avais trouvé un bon rythme qui permettait d'abord de courir une fois par semaine, d'aller à la piscine aussi. Et puis, à l'époque, je faisais de la bicyclette tout le temps dans Paris. Je ne me déplaçais qu'en bicyclette, ce que je fais beaucoup moins ici à Reims, parce que je suis souvent ailleurs qu'à Reims.
Alors, est-ce que vous êtes le genre de coureur qui avait une montre connectée, qui regardait le nombre de pas, le rythme cardiaque?
Non, je suis pas très accessoire, voilà. Et donc, je ne regarde rien de tout ça. J'essaie d'avancer, c'est déjà pas mal.
Pour rentrer dans le vif du sujet, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, de cette émission Sportiplex de Mag, y a-t-il des valeurs communes, selon vous, entre sport et religion?
Alors, c'est une bonne question. Votre question m'a fait un peu réfléchir. Oui, oui, certainement. Il y a une idée de dépassement de soi. L'idée que être un être humain, c'est pas se contenter d'être platement, si je puis dire, mais c'est essayer de mobiliser ses énergies, ses compétences pour être soi-même. Et là, cette tension vers le haut, vers un avantage, cet effort pour maximiser un peu ce que l'on est commun entre la religion et le sport. Et d'ailleurs, Saint Paul, notamment, reprend beaucoup de métaphores sportives.
Alors, c'est vrai qu'on se demande s'il y a des valeurs communes. Si je vous provoque volontairement, Monseigneur, on peut même se demander parfois si sport et religion, finalement, sont compatibles aussi.
On peut se poser la question en termes de temps, en tout cas, parce qu'il est certain que tout le temps donné au sport, c'est souvent du temps qui est pris à la religion. Ça allait... Je pense concrètement dans la vie de beaucoup de gens, parce que le dimanche matin, c'est commode pour aller s'entraîner ou pour participer à un match, plus que d'aller à la messe du dimanche. Donc il peut y avoir des incompatibilités. Il y a dans le sport aussi, de manière plus profonde encore, l'idée de rassemblement. Hein. Vous savez que le mot religion vient d'un verbe latin qui veut dire relier. Donc la religion, c'est ce qui nous relie à une communauté, qui la relie à ses ancêtres et à son avenir. Il y a quelque chose de ça dans le sport aussi. Et on voit bien qu'un certain nombre de gens investissent dans le sport toute une affectivité qui les lie à toutes sortes d'autres gens.
Alors pour rejoindre les exemples que vous nous donnez, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vous parliez il y a quelques instants de Saint Paul. Si on prend quelques exemples dans la Bible, à une échelle différente, parmi une liste non exhaustive, on a Timothée, chapitre 4, verset 7, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». On sent qu'il emploie des termes athlétiques qui laissent supposer une opinion positive du sport, par exemple.
Et peut-être une pratique, en tout cas une connaissance de ce que la pratique sportive peut représenter. Alors dans l'Antiquité, le sport a une place importante dans l'éducation d'un jeune citoyen, qu'il soit grec ou romain. C'est évidemment réservé aux gens libres et aux gens qui ont un peu de moyens. Puis le spectacle sportif dans les courses du stade est important. Plus anciennement, il y a les Jeux Olympiques aussi qui mobilisaient, qui fédéraient toutes les cités de la Grèce.
Et si on continue avec Timothée, toujours au chapitre 4, verset 8, « L'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » On voit finalement, c'est un peu ce que vous nous disiez, c'est que la religion, le sport, c'est un petit peu la piété avant le sport, là, chez Timothée.
Alors, il peut y avoir de la concurrence, et on voit bien que pour Saint Paul, bon, le sport, c'est bien, mais ça ne sert pas grand-chose, parce que notre corps, finalement, qu'on entretient, il finira par être détruit, il finira par mourir, alors que la religion nous prépare pour la vie éternelle. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le voit, je trouve, fortement aujourd'hui. Il ne suffit pas de s'investir dans le sport pour être quelqu'un de bien et quelqu'un qui apporte de la paix et de la joie autour de lui. Ça demande un certain investissement dans le sport.
Et ça rejoint ce que nous dit Samuel, chapitre 16, verset 7. « Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes ne voient que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On a une sorte de mise en garde contre la vanité, là, Monseigneur, sur cet exemple.
Voilà, et donc de fait, donc c'est sa propre histoire du petit David. Samuel cherche un roi et Jessé lui présente ses 7 fils aînés qui sont tous grands, beaux et forts, mais dont aucun ne plaît à Dieu. Puis c'est le petit dernier, un petit ardillon David qui va être retenu. C'est un aspect de ce qui est représenté sur le fronton de notre cathédrale. Oui, le risque du sport, c'est peut-être surtout aujourd'hui plus que hier, c'est une certaine narcissisme. On se complaît en soi-même, on se complaît dans l'image de soi-même, on entretient son corps mais comme une espèce de chose en soi. Alors que ce que j'essaie de dire au point de départ, c'est que ce qui est intéressant dans le sport, c'est l'effort de dépassement de soi qui ne concerne pas l'image de soi que l'on peut porter, que l'on peut entretenir, mais plutôt une sorte d'énergie intérieure qui fait que nous cherchons à utiliser au mieux tout ce que nous portons.
En tout cas, Monseigneur, on est très heureux de pouvoir décortiquer, j'allais dire, ces versets de la Bible avec vous et de les mettre en lien avec la religion et puis donc le sport, évidemment. La religion catholique qui s'est inscrite, Monseigneur, à travers l'histoire de France et même l'histoire d'une manière générale, et donc du sport, des associations sportives, des clubs français, quelles que soient les disciplines, quel héritage garde-t-on aujourd'hui de tout cela ?
Eh bien, c'est une grande question. De fait, beaucoup de clubs sportifs sont nés de patronage. Un grand investissement des prêtres au service de la jeunesse et un grand instrument, c'est le patronage, c'est-à-dire un lieu ouvert avec des salles et puis un terrain. Il faut occuper les jeunes. on fait des jeux, mais petit à petit, on va perfectionner ces jeux et ça va choisir des disciplines sportives et aider ces jeunes à progresser. Il me semble que là-dessus, si je me permets de le dire, le sport naît un peu au 19e, 20e siècle, puis se démocratise à ces moments-là, c'est quand on commence à avoir des loisirs. C'est-à-dire, pendant très longtemps, notre corps a servi au travail, il a servi à se transporter. Se déplacer, c'était un exercice corporel. Il fallait marcher, il fallait même monter à cheval. Et pour beaucoup de gens, c'était quand même la marche. Dans les champs, il y avait un travail rude et dans beaucoup d'usines, d'entreprises. Donc, le corps était mobilisé. À partir du moment où on développe beaucoup les machines, à partir de la révolution industrielle, le corps est beaucoup moins utilisé. Quand il est utilisé, il est souvent très déformé. Et donc, il est utile, il est même nécessaire de pratiquer une activité spéciale qui va équilibrer davantage le corps ou l'utiliser pour des citadins pour qui il n'a plus vraiment d'usage. Et c'est aujourd'hui, le travail, c'est surtout un peu de cerveau, un peu de capacité nerveuse, de concentration. Et notre corps ne sert plus à grand-chose, d'où l'importance du sport.
Alors justement, puisque l'on parlait du sport qui était de l'héritage dont on regarde, c'est surtout les patronages. On a des exemples. Alors si l'on s'éloigne un petit peu de la Champagne-Ardenne, de Reims, des Ardennes, on a un nom du stade de football à Auxerre, par exemple, qui s'appelle le stade de l'Abbé des Champs. C'était à l'époque Apollinaire Geste, vicaire de l'église Saint-Pierre, qui fonde d'abord le patronage de Saint-Joseph en 1880. Qui va laisser son héritage à Auxerre. Ça fait partie des histoires marquantes, vraiment des gens qui ont inscrit la religion avec le sport de manière, j'allais dire, intemporelle.
Voilà, exactement. De même que le rugby dans certains endroits. Enfin, voilà, il y a eu un grand investissement de prêtres qui eux-mêmes étaient des jeunes hommes et qui avaient de l'énergie, qui étaient heureux de pouvoir pratiquer une activité sportive et puis qui ont bien vu le côté éducatif du sport. Il y a une règle à laquelle il faut se conformer. Le sport collectif apprend aux gens à apprendre non seulement à habiter son propre corps, à habiter l'espace, mais aussi à interagir. Agir de manière harmonieuse avec les autres, construire une action quand on joue au foot ou au rugby, bien ça oblige à faire attention un peu aux autres. Et puis c'était une manière de valoriser des jeunes qui socialement et peut-être scolairement n'étaient pas toujours valorisés, ne trouvaient pas toujours bien leur place, mais qui brusquement découvraient une valeur autre. Et de ce point de vue-là ressemble un peu à ce que notre foi nous fait croire, que chacun d'entre nous compte aux yeux de Dieu. Et même si on ne compte pas beaucoup à l'école, même si on ne compte pas beaucoup dans la société, chacun compte individuellement, personnellement, voilà, dans sa capacité à s'engager soit au service des autres, soit au service d'une action commune, et le sport en est une autre. Avec aussi, je dois le dire, le côté, je crois que c'est important de le dire, le côté gratuit du sport, c'est-à-dire que dans ces époques-là, le seul bénéfice, c'est d'avoir joué, d'avoir bien joué, éventuellement d'avoir gagné, mais il n'y a pas d'argent en jeu. Et il y a une espèce d'activité gratuite qui, là aussi, évoque quelque chose de ce que nous essayons de vivre dans notre relation avec Dieu.
Évidemment, on parle des sports collectifs, même s'il y a une vie de groupe, il y a aussi des sports individuels, hein, évidemment, dans lesquels se sont investis les catholiques, les chrétiens et puis les ensembles de pratiquants à travers le monde. On pense, par exemple, c'est un petit peu moins connu, à la Fédération Française de Gym, qui à l'origine est la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France. Et aujourd'hui, on connaît un petit peu moins cette histoire, finalement, des noms qui se perdent à travers le temps aussi, Monseigneur.
Tout à fait, mais la gymnastique à l'époque, c'est une activité individuelle, mais aussi très collective. On fait des figures, on fait des mouvements de masse, on fait des pyramides humaines, donc à la fin des fêtes de patronage, à la fin des kermesses d'église, etc. Pendant ces événements, il y a une manifestation sportive comme celle-là et on est fier de montrer la capacité d'enchaîner des mouvements, de les coordonner et de réaliser quelque chose de beau. Notre corps est un don de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu, même si tu n'as pas de corps, le corps fait quand même partie de notre capacité d'être à l'image de Dieu. Et construire ensemble des figures, eh bien, est une manière aussi de louer Dieu.
Merci, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous dans ce magazine local. Et demain, si vous le voulez bien, on continue d'en parler avec de nouveaux aspects à développer entre sport et chrétienté, le sport pratiqué par les jeunes. C'est aussi ce dont nous souhaite nous parler Jeanne Boudre ce mercredi avec son amie Priscilla dans Parole de Jeunes.
Bonjour et bienvenue dans Parole de Jeunes. Aujourd'hui, j'interroge Priscilla sur sa passion pour le sport. Bonjour Priscilla.
Bonjour.
Quel sport pratiques-tu et en quoi consiste-t-il ?
Tout d'abord, mon sport principal, c'est le patinage artistique sur roulette. C'est un peu comme le patin à glace, sauf qu'on est sur roulette et ça se fait dans un gymnase. Ensuite, je pratique aussi le volleyball à l'UNSS au lycée. Et donc, une fois par semaine, on a des entraînements et des compétitions avec les autres lycées. Je vais aussi à la salle de musculation deux fois par semaine. Je me fais mes propres entraînements, donc là, c'est de l'autogéré. Pareil pour la danse, je fais des danses latines une fois par semaine. Il y a de la bachata, de la kizomba, de la salsa, c'est plus des cours, mais aussi quelque chose de social parce qu'on danse avec plusieurs personnes. Et après, je peux jouer aussi au foot et au basket avec mes amis en dehors des cours.
Qu'est-ce qui t'a motivée à faire du sport ?
J'ai toujours été passionnée par le sport depuis toute petite. Je faisais de la piscine, je faisais de la danse et ça m'a toujours plu et du coup j'ai toujours continué à en faire.
Comment tu adaptes ton emploi du temps au sport que tu pratiques ?
C'est vrai que c'est assez compliqué au niveau de l'emploi du temps avec le lycée. J'essaye de m'organiser en fonction. Après, selon les devoirs, etc., il y a certains sports que des fois je laisse un peu de côté. Mais par exemple, pour le patinage, j'ai mes horaires attitrés, donc je sais d'avance qu'à cette heure-là, j'y serai.
Quelle est la différence entre faire du sport en club et hors club ?
Pour moi, la différence, c'est qu'en club, on est beaucoup plus encadré. On a des entraîneurs et des horaires fixes. Donc l'apprentissage est plus présent puisque quand on est hors club, l'apprentissage est seul. Donc on peut plus facilement se laisser tenter de faire autre chose, par exemple. Alors que quand on est encadré, on n'a pas le choix de faire notre sport et d'écouter les conseils de notre entraîneur.
Qu'est-ce que ça te permet de faire tous ces sports ?
Le sport m'aide à extérioriser, ça m'aide à sortir un peu de ma bulle, donc tout simplement à aller bien, à passer du temps avec d'autres personnes pour mon club par exemple, à voir du monde et puis à faire du sport, donc avoir forcément une bonne santé et être bien dans son corps tout simplement.
Qu'est-ce que ça modifie le changement de saison sur les sports que tu fais ?
Cela impacte beaucoup parce que, par exemple, au patinage, nous sommes dans un gymnase, mais qui n'est pas chauffé. Donc, en hiver, c'est assez compliqué parce qu'il fait très froid. Donc, nos muscles se tétanisent et c'est assez compliqué. Et pareil pour en été, la chaleur, c'est quand même insupportable parce qu'on fait un effort physique. Et pour les autres sports, donc par exemple, pour le foot ou le basket en dehors, c'est vrai qu'en hiver, avec la pluie, forcément, j'en fais moins. Alors qu'en été, je peux en faire n'importe où et cela ne change pas grand-chose.
Tu fais aussi des championnats de patinage. Est-ce que tu pourrais expliquer comment ça se déroule ?
Les championnats de patinage, cette année, ils sont différents de l'année dernière. L'année dernière, tout le monde était admis au championnat de France. Mais là, seulement les personnes qui auront été sélectionnées sur les étapes d'avant seront prises pour le championnat de France. Mon championnat de France de l'année dernière, j'ai été première sur ma première étape. Après, malheureusement, j'ai un peu loupé mon programme. Donc, je suis arrivée quatrième au championnat de France sur 18, ce qui est quand même très bien. Mais par exemple, nous avons fait le Burgundy, qui est une étape très très importante aussi, parce que c'est une compétition internationale. Et à cette étape, je suis arrivée première. Donc, c'est vrai que c'était quand même très bien.
Quelles sont tes ambitions pour le futur dans le sport ?
Je pense pas avoir d'ambition particulière, si ce n'est que je veux forcément continuer le sport, car je ne me vois pas sans sport. Mais à l'avenir, je ferai peut-être des études dans le sport, par exemple le STAPS. Donc ça pourrait quand même me permettre de continuer le sport. Après, selon les études que je veux faire, il n'y a plus de club de patinage où je me trouverai. Donc c'est vrai que, voilà, peut-être que j'arrêterai mon sport principal.
Merci beaucoup Priscilla d'avoir répondu à mes questions. C'est fini pour cette interview et à bientôt dans Parole de Jeunes.
Et sans transition, ou presque, le mercredi, c'est jour de sortie ciné. Le réalisateur dont on va parler n'est pas de la dernière pluie, et ce n'est pas pour déplaire à Fabrice Gironet, à la mise en onde de ce magazine que l'on retrouve. Lise Renard vous propose un focus sur le réalisateur David Fincher.
Trust me. Everything's gonna be fine.
À l'écoute des premières notes de la musique Where is My Mind des Pixies, on ne peut pas s'empêcher de penser à la scène spectaculaire de fin du film Fight Club du réalisateur américain David Fincher qui est à couper le souffle. Ce film sorti en 1999 fut au départ un échec aux États-Unis avant de devenir un des films les plus cultes du cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde un des films de David Fincher, on reconnaît son style particulier qui lui est propre. Un climat toujours un peu angoissant, un visuel très peu coloré, des décors qui ne sont en rien idylliques, un faible pour Brad Pitt à l'écran, et des personnages froids, troublants et très souvent des serial killers, et cela dans une société la plus souvent fade, sans émotion et normalisant l'extrême. Mais je trouve que son style se résume surtout bien par ces quelques mots, l'obsession du mal, qui est en fait le titre du livre de Juliette Goffard qui lui est voué et qui m'a aidée pour cette chronique. J'ai trouvé qu'il serait intéressant d'avoir un regard sur ces films à travers ces trois différentes thématiques, psychologiques, philosophiques et politiques. Premièrement, d'un point de vue psychologique. Le serial killer dans les films de Fincher peut l'être au sens strict, comme avec Amy Dune dans Good Girl, Jerry Brudos dans Mindhunter, John Doe dans Seven, ou au sens symbolique, comme avec la Consumer Recreation Service dans The Game, Tyler Durden dans Fight Club ou Lisbeth Salander dans Millennium. Par symbolique, on entend derrière une personne à la nature profondément violente et destructrice, qui pourrait avoir un profil digne d'un tueur, mais cela sans passer réellement à l'acte. Mais ce qui est perturbant chez Fincher, c'est la difficulté que le spectateur a à cerner les personnages. En effet, la notion de banalité du mal, théorisée par Hannah Arendt, se retrouve particulièrement dans ses films. Les serial killers sont loin d'un univers méphistophélique, avec une beauté de diable fascinante qui fait froid dans le dos. C'est ce que l'on voit dans Seven, Zodiac ou Gone Girl, où on observe une démystification du portrait de tueur en série, avec une certaine trivialité. D'ailleurs, l'expression qui désigne une personne non identifiée, John Doe, correspond au nom de tueur dans Seven. Dans le cinéma plus en général, cela peut aussi nous faire penser à Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux de 1991, réalisé par Jonathan Demme et écrit par Ted Talley, qui paraît être, derrière son inhumanité et sa folie, un psychanalyste cultivé, délicat et poli. On peut observer ce paradoxe également chez Patrick Bateman, interprété par Christian Bale dans American Psycho de 2000, par Maria Ron, qui est au départ présenté comme un golden boy du Wall Street. Même s'il présente dès le début des caractères de psychopathe, il est maniaque, impatient, impulsif, sans émotion, accro à la drogue et à la pornographie. Il est en quelque sorte au départ un tueur symbolique pour le spectateur. Cette banalité du mal est aussi visible chez presque tous les personnages qui entourent les tueurs. Chez Fincher, tout le monde est quelque part hanté par une certaine noirceur. Par exemple, dans Seven, le tueur incarné par Kevin Spacey déclare au policier interprété par Brad Pitt qu'il sait que le policier est tenté par une haine envers lui qui pourrait le pousser à le tuer, mais que seulement il se retient car il sait qu'il pourrait y avoir des conséquences. Cela pourrait aussi nous faire penser au policier dans le film Basic Instinct de 1992 par Patrick Verhoeven, lorsque celui-ci a voulu même avoir un passé criminel. Dans Gone Girl, on remarque également que le mari de Amy Dune, qui n'est pourtant pas le tueur, est tout aussi perturbé que sa femme tueuse d'une manière, ce qu'avoue son avocat. Mais ce film nous montre aussi que toute la société l'est d'une façon, en regardant avancer une enquête de meurtre comme en regardant une série télévisée. Et cette société nous pousse même parfois à participer à ce mal, car les personnages principaux sont eux aussi obligés de changer la vérité et être théâtral devant la caméra, car l'opinion publique est aussi en jeu. Ce qui nous amène maintenant à une réflexion plus politique et sociétale. Si l'on prend l'exemple du personnage interprété par Edward Norton dans Fight Club, il est au départ un simple pion de la société contemporaine, qui n'a aucun sens à sa vie à part accumuler des meubles de chez Ikea. Mais il devient ensuite la figure de toute une révolution anarchique après avoir créé un groupe clandestin de combat ultra-violent. Les films de Fincher ont en effet un caractère obésien sur les bords, avec une vision violente de la société qui pourrait se résumer par ce dicton connu « l'homme est un loup pour l'homme ». La fin de Fight Club pourrait en cela faire aussi penser à celle de Joker, par Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix qui finit aussi par inspirer une rébellion, ou à celle du dernier Batman de 2022, par Matt Reeves, où la révolution passe par les écrans. Et cela, Fincher l'a aussi compris, qu'un caractère obésien peut apparaître aussi à travers nos écrans, avec comme on l'appelle aujourd'hui communément la guerre des médias, qui est un élément essentiel en politique à prendre en compte. Et enfin, d'un point de vue philosophique. Car comme l'explique Juliette Goffard, un lien existe entre Nietzsche et Fincher. Fincher a une certaine haine envers la société postmoderne, visible dans ses films. Le serial killer est souvent le miroir contestataire de la société. Juliette Goffard relève une citation intéressante dans son livre qui est « J'ai un service à vous demander. Ne riez pas. Vu l'état du monde, sacré défi. » Cette citation est tout droit sortie du film « Manque » de 2020 de David Fincher. Elle nous démontre à quel point Fincher semble parfois nihiliste. Cette critique sociétale est aussi visible dans Seven, lorsque le tueur interprété par Kevin Spacey déclare à la fin qu'il a fait tous ses meurtres pour débarrasser la société de sa racaille. Et c'est un peu la même chose qui dégoûte Robert De Niro dans Taxi Driver de 1976 par Martin Scorsese, lorsqu'il décide littéralement de faire le ménage dans la société. Cette phrase de lui résume parfaitement sa vision de la société. « I think someone should just take this city and just flush it down to the fucking toilet. » Je vais conclure par cette phrase de David Fincher qu'il dit en interview. « I think people are perverts.
I've maintained that, that's the foundation of my career. En cela, David Fincher est révélateur de certaines vérités perturbantes, mais fascinantes sur le grand écran.
Merci pour cette belle découverte. On retrouvera Lise d'ici la fin de semaine. Mais pour l'heure, c'est demain que l'on vous donne rendez-vous pour la vie rédactionnelle de votre radio locale RCF Reims-Ardennes avec dès 7h Aline Chaffanjon, la directrice du campus éductif Reims, qui sera notre invitée. Vous la retrouverez aussi à 18h10 dans le magazine régional. Belle soirée en compagnie de nos programmes.